RTU.
RFI. Modèle Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Mondial Sport du samedi avec un grand direct, le combat mondial du boxeur Michel Soro. Un scoop, le Congo n'organisera pas la CAN 2019 de football, c'est le ministre des Sports congolais qui nous le confirmera. De la passion avec le super classico River Boca qui se prépare du côté de Madrid et de Buenos Aires. Un choc anglais surprenant entre Chelsea et Manchester City, un invité champion d'Afrique. Le Camerounais Christian Bassogog, une Coupe du Monde de foot féminine, le tirage au sort vient d'avoir lieu. Bref, que du lourd, Mondial Sport avec Victor Hull à la réalisation, c'est parti. Et direction sans plus tarder le Palais des Sports, Marcel Cerdan de Levallois va s'y dérouler dans quelques minutes le combat des super Walter entre le franco-ivoirien Michel Soro et l'américain Greg Vendetti. En jeu la ceinture mondiale WBA Gold. Sur place Thomas de Saint-Léger pour Michel Soro. Thomas, c'est le combat ne pas rater.
Exactement, Eric, Michel Soro, il a déjà entre guillemets 31 ans, il rêve de s'offrir une revanche face à celui qui l'avait battu il y a un peu plus d'un an, l'actuel détenteur de la ceinture WBA des super welters, à savoir l'Argentin Brian Castagno. Il rêve d'un titre à offrir à la France et à la Côte d'Ivoire, les deux pays qu'il considère comme ses deux parents. Vous savez, il est né à Abidjan, il y retourne d'ailleurs régulièrement, mais la première marche finalement sur cette route, c'est donc le combat de ce soir face à cet Américain que vous avez présenté, Greg Vendetti. On le surnomme de Villain, il rêve de jouer un vilain tour au franco-ivoirien. C'est un adversaire qui présente à peu près le même ratio de victoire que Michel Soro. C'est un adversaire un petit peu plus petit, donc un petit peu plus mobile et un peu agressif. Michel Soro s'attend en tout cas, c'est ce que je disais hier, un combat très compliqué, un combat qui va démarrer dans un peu moins de 5 minutes. Vous entendez derrière moi sans doute les hymnes nationales qui sont joués ici à Marcel Cerdan.
Merci, à tout de suite donc pour faire le point sur le combat. Tout de suite, place au football version sud-américaine. Ce sera demain le super classico le plus spécial de toute l'histoire, un duel River Plate Boca Juniors unique à plus d'un titre. Les deux frères ennemis de Buenos Aires opposés pour la première fois en finale de la Copa Libertadores. L'écrin recevant ce choc étant le Santiago Bernabéu de Madrid. Et oui, une finale de la Ligue des Champions sud-américaine délocalisée en Europe. Ainsi en a décidé la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, après les graves incidents qui ont précédé le match retour de cette finale prévue initialement à Buenos Aires, dans le stade monumental de River Plate, le 24 novembre. Ce jour-là, le bus de l'équipe de Boca avait, entre autres, été caillassé par des supporters adverses. Le titre se jouera donc demain à Madrid, où les supporters des deux clubs, souvent les plus fortunés, affluent depuis quelques jours. Notre correspondant sur place, Pierre Chaperon, est allé à leur rencontre.
J'ai fait Buenos Aires, Sao Paulo et Sao Paulo Madrid, et beaucoup de mes amis sont arrivés via Lima, via Santiago du Chili. Venir depuis Buenos Aires, c'était très difficile.
Comme Santiago, venu de la capitale argentine, ils sont près de 10 000 supporters de River et Boca à avoir traversé l'Atlantique. Un voyage pas si simple de plus de 15 000 km et la passion a un coût.
Il faut calculer 2000 dollars approximativement. C'est très cher pour tout le monde et pour un Argentin en particulier. 2000 dollars en Argentine, c'est vraiment difficile à obtenir. C'est assez cher.
2000 dollars, soit un peu moins de 1800 euros, une somme importante. La majorité d'entre eux a déposé une semaine de vacances pour rallier Madrid. Pour vivre un moment qui sort de l'ordinaire, une finale de coupe sud-américaine en Europe, une décision que regrette Augustine, supporter de Boca Juniors.
C'est vraiment triste, on a du mal à comprendre comment il peut y avoir autant de violence autour d'un simple match de football et comment on n'arrive pas à l'organiser. Mais bon, nous sommes ici à Madrid pour voir la finale entre Boca et River. Et moi, je pense en fait que c'est un énorme business parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne se joue pas en Argentine.
Pour moi, il n'y a pas d'explication pourquoi
se jugó en la Argentina.
Beaucoup de regrets également du côté des supporters de River. Ajouté à de l'amertume, ce match aurait dû avoir lieu dans le stade du club, le Monumental. Leandro est venu avec son frère et son fils voir cette finale. Et pour ce père de famille, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Oui, c'est un peu la passion que nous avons argentins et que nous exportons n'importe où, quoi qu'il arrive. On n'a pas joué en Argentine et bénéficié de l'avantage de jouer à domicile. Mais de toute manière, les supporters de River ont fait l'effort pour venir ici à Madrid. D'un point de vue de l'organisation du spectacle, c'est bien mieux que ce qui se fait parfois chez nous.
Au stade Santiago Bernabéu, tous ces supporters venus de Buenos Aires pourront compter sur l'appui de 20 000 Argentins résidant en Espagne. Une aubaine pour eux ? Pas si sûr. Si Boris, jeune étudiant habitant de la banlieue madrilène, est content d'assister au match, il regrette qu'il ait lieu sur le continent européen.
La Copa Libertadores, c'est l'Amérique du Sud, ce n'est pas l'Europe. Mais bon, il faut se mettre à la place de la Confédération sud-américaine et penser qu'elle doit gagner de l'argent. Donc voilà, ça se fait en Espagne. Pour moi, c'est autant une peine qu'une joie. Une joie parce que je vis ici, une peine pour un grand pays qui aime tellement le foot. Bien sûr que je vais en profiter pour mes amis qui n'ont pas pu venir.
Quoi qu'il en soit, tout est prêt pour accueillir cette rencontre particulière. Les supporters les plus dangereux ont déjà été reconduits à la frontière. Tout est fait pour assurer la sécurité, accès au stade, fan zone. Les deux camps ne devraient pas se croiser le jour de la finale. Près de 4000 personnes sont mobilisées, c'est plus que pour le Classico Real Madrid FC Barcelone. Pour Diego Brancotelli, journaliste argentin dépêché sur place pour cette finale, le risque zéro n'existe pas, mais la situation devrait être apaisée.
C'est effectivement un classico très dangereux, mais je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit ici en Espagne. Les supporters ne sont pas nombreux, et quand on voit comment la sécurité opère, ici, le contrôle strict, la police, ici à Madrid, je ne crois pas qu'il y aura de problème. Ils sont très dangereux, beaucoup se détestent, il y a beaucoup de violence entre les deux camps, mais même s'ils se croisent ou s'ils se voient, je ne crois pas qu'il y aura d'incident à Madrid.
Difficile d'imaginer qu'une rencontre de coupe sud-américaine se déroule ici à Madrid, comme si le contexte avait pris le pas sur l'enjeu sportif. Pourtant, ce dimanche, c'est bien la 59e Copa Libertadores qui sera en jeu. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Grosse ambiance à venir donc à Madrid. Quid au fait de Buenos Aires qui se voit donc privé du bouquet final de la Copa Libertadores? Eh bien, on va se tourner vers notre correspondant sur place, Jean-Louis Buchet, qui va nous dire dans quel état d'esprit eh bien les Argentins vont suivre cette finale retour demain soir.
C'est la déception, sinon la honte, qui domine chez les Argentins. Déception surtout pour les supporters de River qui avaient payé leur place au Monumental parce que la super finale a été exilée à Madrid. Et honte pour presque tous pour n'avoir pas été capable d'organiser ce match du siècle. Pour beaucoup, le résultat n'a plus grande importance, mais tous regarderont le match à la maison, en famille ou entre amis, ou dans des cafés, les fans de Boca autour de la Bombonera, ceux de River à proximité du Monumental. Ailleurs, ils seront mêlés dans des bars où les touristes ont déjà réservé leur place. Les deux stades seront fermés et interdits au public pour raison de sécurité. Et il n'y aura pas de projection sur écran géant pour éviter des incidents. Un imposant dispositif de sécurité sera établi aux alentours de l'obélisque, où, comme le veut la tradition, les supporters de l'équipe qui aura gagné iront fêter la victoire. Jean-Louis Buchet, Buenos Aires, RFI.
Le choc demain soir donc à Madrid, Boca et River qui partiront à égalité pour ce match retour, puisqu'à l'aller à la Bombonera, le score avait été de 2-2. On rappelle que les buts inscrits à l'extérieur ne sont pas comptabilisés. Puisque nous sommes à Madrid, eh bien évoquons la Liga espagnole, 15e journée ce week-end. À l'instant, le derby de la Catalogne, de Barcelone, se termine 4-0 pour le FC Barcelone, pour le Barça face à l'Espagnol. Le Barça qui du coup conserve la tête du classement avec 3 longueurs sur l'Atlético Madrid, vainqueur d'Alavés 3-0, et 4 sur Séville, accroché à Valence, 1-1. En Angleterre, sensation lors du 16e épisode avec la chute de Manchester City à Chelsea, 2-0. Premier revers de la saison en Première Ligue pour les Citizens, de quoi aller sonner chez notre correspondant à Londres, Tom Williams. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut parler d'une victoire pleine de réalisme des Blues ?
Oui, oui, effectivement, comme d'habitude, City a monopolisé la possession du ballon en premier mi-temps, mais sans vraiment créer des occasions. Et c'est Chelsea qui a marqué contre le corps du jeu grâce à un buteur inhabituel, N'Golo Kanté, qui a marqué du plat du pied suite à une passe en retrait d'Eden Hazard. Les citizens de Pep Guardiola ont tout écrasé cette saison, mais ils n'ont pas pu réagir en deuxième mi-temps, ayant également perdu David Silva sur blessure. C'est David Luiz qui a scellé la victoire à 12 minutes de la fin avec un but à la tête du premier corner du match gagné par Chelsea. Les hommes de Maurizio Sarri, qui ont perdu contre le promu Wolverhampton en milieu de semaine, restent en quatrième place, tandis que City se trouve maintenant à un point du nouveau leader Liverpool, victorieux par un score de 4-0 sur le terrain de Bournemouth.
Et si Liverpool est de retour au premier plan, eh bien c'est grâce surtout à un certain Mohamed Salah.
Oui, Mo Salah a connu un début de saison poussif après sa blessure en finale de Ligue des Champions avec Liverpool et un mondial en demi-teinte avec l'Égypte. Mais il commence à monter en puissance et contre Bournemouth, aujourd'hui, il a produit sa performance la plus aboutie de la saison. 3 buts et un vrai bijou pour compléter son triplé. Lancé en profondeur, il élimine les gardiens, Azmir Begovic, pas seulement une fois, mais 2 fois, avant de battre un défenseur sur la ligne. Le voici co-meilleur buteur du championnat avec 10 buts. Et voici Liverpool, seul en tête de la Première Ligue, après le meilleur début de saison dans toute l'histoire du club. Naby Keita, le milieu guinéen de Liverpool, était titulaire et a livré un match plein de créativité, pendant que Sadio Mané a fait son retour de blessure en remplaçant.
Merci beaucoup Tom Williams. Liverpool donc en tête devant Manchester City une longueur derrière. Et Tottenham est maintenant la 3e place à 6 points des Reds. Tottenham qui vient d'aller s'imposer à Leicester 2-0. Victoire d'Arsenal 1-0 sur Huddersfield. Et puis Manchester United a dominé Fulham 4-1. Fulham, la lanterne rouge. En Allemagne, pas de changement. En revanche, Dortmund garde les commandes après 14 journées. Après son succès à Schalke, 2-1, le Bayern Munich suit à 9 longueurs après sa facile victoire sur Nuremberg, 3-0. On retourne à la boxe. Thomas de Saint-Léger, le combat bat son plein.
Nous sommes dans la 12e des 12 reprises que compte ce combat. Combat pour l'instant très tactique entre deux adversaires qui s'observent beaucoup. Léger avantage, on va dire, à Michel Soro qui profite de son allonge pour toucher son adversaire. Greg Vendetti, l'américain, très mobile. Attention, il faudra se méfier de sa vivacité pour la suite de ce combat. Pour l'instant, léger avantage, je dirais, à Michel Soro.
Merci. À très vite, Thomas de Saint-Léger. Hugo Moissonni, bonsoir.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Avec vous, on va évoquer le football africain après l'annonce surprise, indémenti. Selon son ministre des Sports, le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat à l'organisation de la CAN 2019.
Et pourtant, on avait cru comprendre que le Congo-Brazzaville avait sollicité la Confédération africaine de football pour remplacer le Cameroun et organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est en tout cas ce que nous avait confié Constant Omari, deuxième vice-président de la CAF. Mais toujours sur RFI, le ministre des Sports du Congo-Brazzaville n'a pas hésité à contredire ses déclarations. On écoute Hugues Ngouelondélé, interrogé par un certain Eric Mabrut, je crois que c'est vous.
L'intention aurait pu être bonne, hein, c'est sûr. Mais vous savez que le Congo aujourd'hui a d'autres enjeux. Et nous sommes à 6 mois de l'organisation de la CAN 2019. Il ne sera pas possible pour le Congo d'organiser cette CAN avec honneur et dignité. Donc je pense qu'il faut plutôt dire le contraire, que le Congo ne sera pas candidat à l'organisation de la CAN 2019. Cela ne sera pas possible. On sera peut-être candidat plus tard, c'est sûr, parce que c'est une fête du football tournante. Et le Congo aura la possibilité, dans 2 ans, dans 4 ans, de se positionner. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme du gouvernement de la République.
Il y a eu une volonté, enfin il y a eu l'idée à un moment donné, peut-être de proposer,
oui,
quelque chose.
Ça a
circulé,
oui,
un peu quand même.
Oui, oui, ça a circulé, c'est sûr. Il y a au niveau de la Fédération congolaise de football... Même le ministre lui-même, pourquoi pas? Mais quand on se met face à la réalité, on pense que dans 6 mois, ce ne sera pas possible d'organiser une aussi grande fête pour que les résultats escomptés soient obtenus. Non, ce n'est pas possible.
Concrètement, qu'est-ce qu'il manque au Congo pour accueillir un tel événement?
Bon, nous avons les infrastructures, vous savez. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau africain, on ne peut pas dire que le Congo manque d'infrastructures. Mais accompagné de cela, il faut aussi des structures. Je peux prendre l'exemple de la ville de Dolisie, aujourd'hui, qui sera retenue si jamais la CAN se passe au Congo pour abriter des matchs. Mais là-bas, nous avons un problème d'hébergement, par exemple. On n'aura pas les hôtels qu'il faut pour, n'est-ce pas, héberger les athlètes et les joueurs. Alors, c'est pas seulement le cas de Dolisie. Il y a Rwanda aussi, donc on ne va pas se lancer dans une aventure comme celle-là pour non seulement faire que la fête ne soit pas belle et déshonorer aussi quelque part le pays. Non, il faut prendre des engagements et pouvoir les respecter. Je pense que le Congo n'est pas prêt à organiser la CAN 2019, ce ne sera pas possible.
Au niveau des stades, il y aurait beaucoup à faire ou pas ?
Non, les stades sont dans de très bonnes conditions.
Il y en a combien ?
Nous avons 11 stades au total. 11 stades, et je pense que celui que nous avons à Brazzaville, en dehors de Massamba Déba, le plus grand, le stade de l'unité nationale, je pense qu'au niveau africain, il est parmi les meilleurs.
Parce qu'il faut 6 stades pour accueillir une CAN à 24. C'est plus compliqué.
Nous avons plus de 6 stades. Mais le problème pour nous, il se poserait au niveau de l'hébergement, et on ne prend pas ce risque-là de mal loger les gens, tout simplement.
Surtout que ça coûte très cher d'organiser une CAN, non ?
Ah oui, certainement. Et puis, vous savez que la crise aujourd'hui, elle est mondiale. Donc, on ne va pas quitter d'autres priorités pour organiser la CAN.
Pourquoi alors M. Constant Marie a-t-il lancé le nom du Congo-Brazzaville, selon vous, alors ?
Oh bon, ça c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Ou peut-être qu'il a dû être contacté par la Fédération congolaise de football. Mais en tout cas, sur cette question, il n'y a pas eu concertation.
La CAF vous a sollicité ou pas ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Monsieur Constant Marie est un ami à moi de longue date, mais lui et moi, on n'a pas partagé autour de cette question.
Voilà, le ministre des Sports congolais du Congo Brazzaville et les pays qui veulent vraiment reprendre le flambeau de cette CAN 2019 ont jusqu'au 14 décembre minuit, heure du Caire, pour le faire savoir.
Direction le Palais des Sports, Marcel Cerdan à Levallois. Thomas de Saint-Léger, c'est déjà terminé.
Et je vous parlais d'un combat long à se décanter, à se dessiner. Et vraiment une minute après mon intervention au cours de la seconde reprise, Michel Serrault est venu coincer son adversaire Greg Vendetti le long de la corde. Il lui a asséné une série de crochets droite-gauche fulgurants. Vraiment l'Américain qui s'est écroulé et qui ne s'est jamais relevé. Victoire par KO au deuxième round donc pour Michel Serrault. Le franco-ivoirien qui s'empare donc de la ceinture WBA Gold des Super Welter, une sorte de passeport pour affronter l'actuel détenteur de la grande ceinture, si l'on peut dire WBA, l'Argentin Brian Castagno. On verra ça donc au prochain épisode.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, Michel Serrault donc qui réussit son pari. Hugo Moissonni, on va continuer à parler avec vous de la CAN 2019 donc qui ne se disputera pas au Cameroun, la CAF l'a annoncé. Et du côté justement des Camerounais, on a un petit peu de mal à digérer cette décision.
Ciao Victor.
Oui, à l'image de l'une des vedettes de l'équipe, Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, remporté par les Lions Indomptables. Et à l'instar du football camerounais en général, cet ailier droit au déboulé fulgurant au Gabon n'a pas surfé sur ce succès, puisqu'il a quitté le Danemark pour la Chine et le Henan Jane FC après la CAN au Gabon. Et cet exil lui a même un temps coûté sa place en sélection. Il a finalement été rappelé, contrairement à un autre chinois, entre guillemets, Benjamin Mukonjo. Il a notamment participé à la défaite historique du Cameroun au Maroc il y a quelques semaines. C'était en éliminatoire de la CAN 2019, justement. Alors, vous le savez, pour participer à cette compétition, désormais, les Lions Indomptables devront valider leur billet sur le terrain. Ils ne défendront pas leur titre de champion d'Afrique à la maison. Et c'est forcément une énorme déception pour Christian Bassogog.
Je suis vraiment blessé. Retirer une CAN qui devait se jouer à domicile, c'est comme si on avait retiré un enfant de sa maman. Et je pense que c'est pas juste moi, c'est tous les Camerounais qui sont blessés. Tous les Camerounais sont déçus. Je devais défendre mon titre au pays et chez moi. Ça devait être une grande fête et une grande fierté de participer une CAN dans son pays.
Mais a priori, vous organiserez celle de 2021, donc vous ne perdez pas totalement l'organisation de la CAN. C'est une petite consolation.
2019, c'était vraiment spécial parce que quitter du champion et jouer directement à domicile, c'était vraiment quelque chose de spécial. Mais 2021, je pense qu'on va mieux se préparer pour vraiment défendre notre titre.
Alors, autre consolation, vous continuez à participer aux éliminatoires de la CAN 2019. Votre place, vous allez la jouer face aux Comores, match décisif, ce sera en mars prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer.
C'est vraiment un match important. On doit prouver sur le terrain que notre qualification vient de là. Notre groupe est déjà soudé. C'est comme une famille. Il faut nous donner du temps pour pouvoir montrer qu'on n'a pas eu tort d'être champion.
Plus globalement, ça fait beaucoup d'accrocs pour le football camerounais depuis la victoire en 2017. Quelques semaines après, le sacre Hugo Broos à Bruxelles dénonce l'incompétence de certains membres de l'encadrement des Lions Indomptables. Il y a eu un désordre institutionnel avec l'instauration d'un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Il y a eu cette non-qualification pour la Coupe du Monde 2018 avec une large défaite face au Nigeria. Il y a ce retrait de l'organisation de la CAN 2019. Est-ce que vous êtes inquiet pour le football camerounais qui essuie pas mal de revers après être grimpé sur le toit de l'Afrique en 2017?
Non, pour moi, je suis pas inquiet. Parce que c'est une nouvelle génération qui se réveille. Il faut que ça prenne du temps. C'est pas parce que nous sommes sortis champions d'Afrique que direct on va nous juger sur des matchs. C'est vrai que c'était vraiment des matchs importants. Surtout contre le match contre le Nigeria, c'était vraiment une lourde défaite. J'ai jamais eu à jouer avec mon pays et conserver 4 buts. Mais je pense que avec le nouveau staff qui est là, il y a un travail qui est en place et il va falloir que ça prenne du temps.
Justement, ce nouveau staff, Clarence Seedorf, secondé par Patrick Kluivert, deux anciens grands joueurs, mais des techniciens qui doivent encore prouver qu'ils ont les capacités de briller sur un banc de touche. Vous pensez tout de même aller dans la bonne direction avec ce staff technique?
Le travail que ces deux coachs mettent sur pied, c'est vraiment bien. C'est vrai, contre le Maroc, c'était un match qui m'a vraiment blessé en fait. Le Maroc, dans l'histoire, n'a jamais battu le Cameroun. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était du fait que ça m'a blessé. Moi, je ne vais pas tirer sur le coach en disant qu'il ne nous a pas sélectionnés ou quoi que ce soit. C'est son choix. C'est lui le boss. À moi de prouver sur le terrain si je suis bon ou pas. Il a été un grand joueur, une légende même pour moi. Étant coach, je pense qu'il va faire peut-être des grandes choses. Par rapport à Moukandjo, c'est, comme je l'ai dit, c'est la décision du coach.
On en vient à votre situation personnelle, parce que finalement, vous avez réintégré la tanière des Lions Indomptables. Mais tout de même, on a vu que ce choix de quitter l'Europe après la CAN 2017 pouvait être mal compris par les observateurs du football africain. Aucun regret pour l'instant d'évoluer dans ce championnat chinois? Vous vous amusez là-bas? Vous progressez?
J'ai pas de regret. Quand j'ai eu la proposition, j'ai parlé avec mes parents, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Et je suis même d'abord fier par rapport à mon choix parce que c'est pas facile d'être là-bas. C'est pas tout le monde qui va accepter de vivre là-bas. Faut être un guerrier, s'intégrer. Je suis fier de connaître la culture chinoise et connaître le foot chinois. La langue d'abord, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. C'est une routine que je connaissais pas. J'ai ma copine qui vient de temps en temps pour me rendre visite, pour m'apporter un soutien. Et je parle tout le temps avec ma famille qui me soutient. Ça m'encourage à aller toujours bosser pour eux et toujours faire du bien.
Et sportivement, comment vous l'évaluez ce championnat chinois?
C'est vraiment difficile. Non, cette année, j'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont un peu ralenti sur mon niveau parce que la saison passée, j'étais bien lancé. Cette année, malheureusement, j'ai eu beaucoup de blessures.
Est-ce que l'Europe vous manque?
Tout jeune, tout footballeur rêve de jouer dans un grand championnat européen. Pouvoir montrer que je ne suis pas allé en Chine juste pour quelque chose, je suis allé en Chine pour apporter ce que je connais aux Chinois et apporter dans le foot chinois. Donc pour moi, ça serait vraiment une très grande fierté de revenir en Europe.
Mais pour l'instant, il est bien sous contrat en Chine, Christian Bassogog. Il va encore y rester un tout petit peu le meilleur joueur de la CAN 2017 qui a eu l'extrême gentillesse de passer par nos locaux hier vendredi.
Merci Hugo Moissonnet. Et on accueille Eric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous vous intéressez aux femmes?
Eh oui.
Vous avez bien raison. Mmh. Football, toujours, la Coupe du Monde féminine approche, puisque eh bien l'Hexagone va accueillir l'an prochain ce rendez-vous du ballon rond mondial féminin. Les dates du 7 juin au 7 juillet, Eric, aujourd'hui avait lieu le tirage au sort donc de cette Coupe du Monde féminine. 24 équipes y participeront et elles connaissent désormais donc leurs adversaires du premier tour. Alors pour la France, Eric, quels adversaires? Claire.
La Corée du Sud en match d'ouverture au Parc des Princes le 7 juin, la Norvège à Nice le 12 et le Nigeria à Rennes le 17. Un groupe A à la portée des Bleus, même si la Norvège est l'une des quatre équipes seulement à avoir été championne du monde, hein, mais c'était quand même en 95. Et Ada Hegerberg, la première ballon d'or féminine, c'était très récemment, refuse de jouer pour sa sélection. Et du coup, elles sont peut-être un peu moins bonnes. Les Nigérianes, elles viennent de remporter leur troisième titre d'affilée de championne d'Afrique, mais c'était un peu en trompe-l'œil. Reste les Coréennes qui ne sont pas les meilleures en Asie. Elles en pensent quoi, la sélectionneur des Bleus, Corinne Diacre?
Écoutez, ce sont trois nations qui jouent très bien au football. Alors, trois cultures footballistiques aussi complètement différentes. Maintenant, vous savez, si elles sont là, c'est pas par hasard. Donc, il faudra qu'on se montre bien meilleur qu'elles. Si on veut aller loin dans la compétition, on n'a pas le choix de toute façon.
Si j'ai bien regardé quand même, il y a un potentiel quart de finale face aux Américaines. Vous l'avez regardé aussi, j'imagine.
Oui, mais maintenant, si on ne sort pas de la poule, ça ne sert à rien de regarder le quart de finale. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape, comme on fonctionne depuis le début. Et puis après, si on doit jouer un quart de finale contre les États-Unis, eh bien on le jouera.
Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueuses, à votre avis, là, en ce moment? Enfin, dans la vôtre aussi, j'ai envie de savoir, mais...
Dans la mienne, plutôt soulagée aujourd'hui. Voilà, la Coupe du Monde démarre vraiment aujourd'hui, avec le tirage au sort, les trois équipes connues. Je pense qu'on a hâte, ça c'est sûr. Ça fait un an et demi qu'on fait des matchs de préparation, sans compétition officielle, ça commence à être un peu long. Mais maintenant, il faudra être prête le jour J.
Un jour J vers lequel les 24 équipes participantes vont pouvoir se projeter encore un petit peu plus. Et parmi elles, 3 sont africaines. On a déjà évoqué le Nigeria qui va jouer avec la France. Qu'en est-il pour l'Afrique du Sud, le Cameroun?
Eh bien, pour leur première Coupe du Monde, après être passés très près d'un premier sacre continental, les Sud-Africaines ont hérité, on peut le dire, d'un groupe B très difficile. Avec les Allemandes, double championne du monde en 2003 et 2007. Des Espagnoles très prometteuses. Elles étaient finalistes des derniers championnats du monde des moins de 20 ans en Bretagne. Et puis des Chinoises qui sont toujours au rendez-vous. Pas simple non plus, hein, le groupe E des Camerounaises avec les solides Canadiennes, les Néerlandaises championnes d'Europe en titre et des Néo-Zélandaises encore un peu méconnues. On a pris en tout cas l'avis du sélectionneur des Lyon, Joseph Ndoko, heureux de revenir en France où ses joueuses avaient encaissé un 6-0 en amical en octobre dernier. Depuis, il y a eu la CAN et cette demi-finale perdue au tir au but face aux Nigérianes. Alors qu'en pense-t-il de ce tirage, sans la France sur sa route, en tout cas en poule?
C'est les 24 meilleures équipes du monde. Déjà, avoir le Canada, avoir les Pays-Bas, même la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe qui est extrêmement bien organisée. Aujourd'hui, elles sont suivies. Toutes les catégories inférieures ont fait des bonnes choses sur le plan international. Donc, c'est des équipes à prendre avec beaucoup de sérieux. Déjà, les 24 équipes, si elles sont déjà ici, ça veut dire qu'elles en valent la peine. Donc, voilà. Vous avez dit que ce n'est pas le groupe de la France. C'est vrai. J'avais promis qu'on pourrait se revoir forcément pour jouer contre la France et que ça devait être plutôt un match de poule. Mais je souhaite que des bonnes choses à la France, qu'on se croise certainement plus haut, peut-être à la finale, pourquoi pas. Et je ne t'ai pas sur les ambitions aussi en même temps.
Oui, parce que l'objectif des Camerounaises dans cette compétition, elles sont sorties de la phase de poule lors de la dernière Coupe du Monde, c'est au moins de faire aussi bien, d'aller au moins en huitième de finale, voire plus haut.
On était sortis en huitième de finale. Donc ça veut dire qu'il faut faire mieux. Il faut faire mieux parce qu'au moins c'était notre première participation. Et on avait démontré qu'on avait une attitude quand même qui démontrait qu'on pouvait aller titiller aussi des grandes nations. Aujourd'hui, on a grandi. Aussi, il va falloir le démontrer. Il va falloir démontrer qu'on peut aller, pourquoi pas, en quart.
La déception de la CAN est passée. C'est l'essentiel, c'était d'être ici, en France.
Non, c'est la branche qu'on a pu attraper après qu'on ait raté le trophée. On peut pas dire le contraire. Et maintenant, il faut surprendre de la bonne manière. Même sur le plan mental, qu'on vienne ici, nous, qu'on ne se sente pas comme outsider, tant mieux si les autres nous en tiennent comme tels. Mais je peux vous rassurer que... On attendait le Cameroun au second tour, et peut-être encore plus loin.
Il voit loin, Joseph Ndoko, Canada-Cameroun, Eric, pour l'entrée en liste des champs des Lyon, hein, c'est le 10 juin à Montpellier.
Rendez-vous est pris, merci Eric Chorin. Nous, on ne va pas avoir si loin. Juste à demain, puisque mon Gasport revient demain, dimanche, même heure, 21h30, temps universel. Un grand merci à Victor Hull, très bonne soirée sur RF.